Je vais commencer par rapport au lycée professionnel. Hannah Arendt, elle disait qu'une idéologie, c'est la logique d'une idée. Le lycée professionnel, c'est son appellation aujourd'hui, a toujours été pris en tension entre l'enseignement et le professionnel. Il y a quelques années, en 2000, il s'appelait lycée d'enseignement professionnel. Et aujourd'hui, il s'appelle lycée professionnel. Alors un jour, j'ai posé la question à un IG qui disait, je lui ai posé cette question, mais est-ce que ce sont toujours des profs puisque l'enseignement a disparu dans l'intitulé? Où sont les enseignants puisqu'on ne parle plus de lycée d'enseignement professionnel, on parle de lycée professionnel. Pour moi, ça a toujours été révélateur de quelque chose où les enseignants sont pris un petit peu en tenaille entre la professionnalité des élèves et puis l'enseignement. Pour moi, c'est à part entière, ce sont vraiment des enseignants, comme les autres. Le bac professionnel, 4 ans passé en 3 ans, on pourrait dire, avec une certaine provocation, c'est un sacré coup de com' de la part du ministère, puisque ces élèves-là sont comme les autres. Ils font un brevet des collèges, ils sortent de 3e, et en 3 ans, ce sont des bacheliers, comme dans les filières générales, comme dans les filières technologiques, avec tout un tas de problèmes que ça peut poser. La preuve en est, c'est une formatrice en enseignement général qui me disait ça. Elle disait, aujourd'hui, quand on annonce les résultats du bac, les lycées pro sont comme les autres. On présente les filières générales, les filières technologiques et le bac professionnel. Voilà. Donc ça sort un peu de cette particularité qui aurait eu tendance à un certain moment, et d'ailleurs la recherche en est bien le témoin, puisque les lycées pro ne sont pas un objet d'étude très développé. Je pense que Vincent Troget, Aziz Djellab sont les quelques référents nationaux qui vraiment sont porteurs de ce regard. Donc nous on s'intéresse à la filière. Ces lycées professionnels ont toujours été pris un petit peu en tension entre l'enseignement, le professionnel. Qu'est-ce qu'on forme? Ces lycéens sont-ils des lycéens comme les autres? Et Sabine Coste dit effectivement aujourd'hui, ce sont des lycéens comme les autres. Même si cette communication qui a été très bien vendue dans les médias auprès des familles reste quand même assez problématique sur la poursuite des études. Sur Lyon, l'Académie de Grenoble, l'Université Joseph Fourier, en son sein, dans la filière du génie civil, STI, alors je ne sais pas comment ça se passe pour d'autres filières, mais en STI, depuis 3 ans, une création d'un diplôme d'IUT uniquement dédié aux élèves qui sont issus des classes de bac professionnel. Et il y a une sorte de tutorat qui se réalise avec des étudiants du cursus classique qui ont fait un bac scientifique, par exemple, et qui tutorise pendant les 2 années ces élèves. L'abandon se fait, on va dire, représente 10% des effectifs. Et les élèves qui sortent avec leur DUT sont des étudiants, avec les mêmes compétences que les élèves issus du cursus classique. Professionnel, ça veut dire que normalement, la logique voudrait qu'ils entrent dans le monde du travail. Ça a été la volonté des politiques au départ, et du ministère. Et on retrouve, moi qui suis à l'IUT, première année, deuxième année, licence pro, licence, master pro, etc. On retrouve la même chose avec les licences. Des licences professionnelles qui arrivent en fin de cursus et qui veulent continuer en master. Et ils essayent de prendre des filières détournées, d'apprentissage, etc. Puisqu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas rentrer dans un master classique puisqu'ils sont issus d'une licence professionnelle. On regarde même pas les dossiers, non. Donc tout ça, c'est le cadre un peu général pour dire excusez-moi. Donc c'est celui-ci. Voilà. Je remets mes lunettes. Voilà. L'enseignement professionnel, donc, voilà, c'est une alternance entre le lycée et l'entreprise. C'est une vocation et c'est ce qu'on retrouve sur ce changement d'appellation, lycée d'enseignement professionnel et lycée professionnel. Hein. On pourrait dire, ben voilà, l'enseignement a disparu au profit de l'entreprise, ou du professionnel. Ce qui est faux, hein, mais ça reste quand même, on pourrait se demander, se questionner, ça pourrait faire l'objet d'une communication, qu'est-ce qui a fait que l'enseignement est disparu dans l'appellation du lycée, hein, professionnel. Donc la réforme du bac pro, 4 ans au bac pro, 3 ans, donc elle a inscrit ses lycéens dans une sorte d'homogénéité par rapport aux autres lycéens issus du cursus classique, et ça a forcément eu des conséquences sur le public, sur les enseignants. Bon, c'est de ça dont on va parler. Et on fait encore un focus plus restreint sur le public issu de la filière du génie civil. Donc dans la filière du génie civil, c'est tout ce qui concerne les métiers du bâtiment, du maçon au plombier, à l'électricien, au peintre, au carreleur. On verra que ce changement de temporalité... il y a une particularité, on peut pas, moi, après je sais pas, la journée de vendredi, comment Vincent Troget va parler de tout ça, mais le génie civil, c'est quand même eu des conséquences assez, assez particulières par rapport, je sais pas, par exemple, à un élève qui est en comptabilité, ouais, en secrétariat, ou en conduit, voilà.
En bac GA.
Voilà. Donc, ce que vous allez sûrement entendre aujourd'hui ou demain, hein. Voilà. Donc, la première conséquence sur les élèves. Alors là, on va faire à deux voix, hein. Oui. Donc des élèves qui sont plus jeunes et qui sont moins matures. Plus jeunes, en lycée professionnel, il y a quelques années, on pouvait faire sortir de quatrième, faire deux années en lycée professionnel. Il y avait même une formation qui s'appelait les CPA, les classes pré-professionnelles à l'apprentissage, parce que les élèves n'avaient pas 16 ans, donc ils faisaient une année de CPA, une première année de CAP, deuxième année de CAP, troisième année de CAP. Certains d'entre eux pouvaient passer un BEP ou un bac pro, ce qui fait que certains élèves pouvaient rester dans un même établissement pendant 5 ans, 6 ans.
6 ans, oui, c'est trouvé avec les 4T, 3T, et puis ensuite BEP, et puis ensuite 2 années de bac, on arrivait à faire 6 ans, effectivement. Voilà. Et avec les mêmes enseignants.
Souvent. Avec les mêmes enseignants. Alors,
sur le même plateau.
Voilà. Deux postures pour ces élèves, une posture, on va dire, une logique un peu domestique, c'est-à-dire que on s'intègre à toute la norme locale du lycée professionnel, aux enseignants. Moi, j'ai même eu des élèves qui sont restés en bac pro, qui pouvaient être pris en première d'adaptation, mais qui ont préféré rester en bac pro parce que ils voulaient pas partir de l'établissement, du contact qu'ils avaient avec les enseignants, leurs copains, etc. Le lycée professionnel a aussi cette particularité, comme le public est quand même un public qui est en difficulté, partir loin, c'est trop dangereux. Donc il y a eu des moments donnés dans les lycées professionnels où vous aviez plein de filières différentes. Je pense à celui de Alfred de Musset, par exemple, où il y avait plein de filières différentes et le ministère a recentré les moyens dédiés, on va dire, identifier des lycées pro plutôt la menuiserie, plutôt du gros œuvre. Mais il y avait à un moment donné des lycées professionnels qui accueillaient vraiment des élèves du secteur. Ce qui fait qu'il y avait plein de spécialités différentes.
Je crois qu'on était vraiment sur des lycées de quartier. Enfin, mis à part quelques lycées qui avaient effectivement des dimensions académiques, voire
nationales pour certains,
mais beaucoup de lycées avec une vocation de quartier. Hein. Effectivement, quand on prend Alfred de Musset, puisqu'on y était tous les deux, Alfred de Musset, on avait à peu près tout, sauf la biotech, je crois. Mais, ouais. On doit avoir de tout. Alors effectivement, il y a eu après un recentrage au niveau des moyens, une redistribution des cartes. Alors il n'y a pas que les moyens, c'est-à-dire, on a voulu avoir des plateaux techniques plus performants, forcément, puisque la région et la région finançant, il a fallu se recentrer sur des plateaux, et on est arrivé avec le lycée des métiers, l'idée du lycée des métiers qui offre aussi autre chose. Hein, mais on est vraiment donc ce lycée professionnel de quartier a disparu, même si ça pose quand même un problème, parce que Il reste quand même quelque part deux quartiers dans le sens où le jeune de lycée professionnel, même en bac pro, va plutôt choisir en fonction de ce qui est à côté de chez lui plutôt que de ce qu'il pourrait éventuellement faire ou ce qu'il a envie de faire. Quoi. Si c'est trop loin, il n'y va pas. Ah, et on a certains effectivement établissements, je pense à Châtillon-sur-Chalaronne puisqu'on a des représentants aujourd'hui, mais je pense aussi au lycée de Néronde, par exemple, dans la Loire, où effectivement, ils ont, même quand ils offrent, alors c'est le cas de Châtillon-sur-Chalaronne, puisque c'est un des deux seuls établissements de l'académie qui offre de la maintenance des matériels. Je pense à Néronde parce qu'ils ont des formations très spécifiques, comme le bac pro intervention sur patrimoine bâti. Eh bien, malgré ça, ils ont quand même de la difficulté à recruter, même s'ils recrutent, parce que les jeunes, ils préfèrent aller à côté de chez eux plutôt que d'aller très loin, même si en plus ces établissements ont des internats.
Pascal Déby, un sociologue, a écrit Ethnologie de la porte, et il dit sortie et sortilège, c'est la même racine latine. Donc les élèves peuvent avoir une difficulté à sortir de chez eux, du quartier, et faire des choix de proximité. Et on ne devient pas forcément maçon, on peut devenir secrétaire
parce que
c'est à côté, voilà, hein. Donc c'est pas forcément, ça s'inscrit pas forcément dans une logique Donc des élèves, on va revenir recentrer là-dessus, des élèves plus jeunes et moins matures. Donc des élèves plus jeunes. Je te laisse un peu la parole.
Alors, je crois que ce qui est important aussi, c'est une des particularités du génie civil, c'est que on peut dire en gros que 50% des formations génie civil sont des formations extrêmement gestuelles. Alors, de moins en moins quand on passe sur le génie civil, mais disons côté énergétique, où là effectivement on est plus sur des savoirs, des process, etc., que du manuel. Mais le bac pro TB Urgo, alors pour parler simple maçon si vous préférez, le bac pro aménagement finition, pour parler simple peintre, ce sont des bac pro qui sont très gestuels, même si bien sûr il faut avoir des connaissances techniques associées. Mais ça reste des métiers très gestuels. Donc le fait d'avoir des jeunes qui sont moins matures, le fait d'avoir une réduction du temps de formation, ça fait que, et ça va être la grosse problématique, ça fait qu'au niveau des entreprises, ça coince. Hein, parce qu'ils voient arriver des jeunes qui sont jeunes, qui attendent tout, quoi, qui sont très scolaires encore. Et puis surtout, le génie civil a la particularité aussi d'être confronté avec une autre forme de voie de formation très forte, qui est l'apprentissage. Donc effectivement, on se retrouve sur l'académie avec des élèves qui sont issus de bac pro 3 ans par la voie scolaire et des élèves qui sont issus des mêmes bac pro par la voie de l'apprentissage, quelquefois mixte, mais par la voie de l'apprentissage. Et très souvent, ce sont les mêmes établissements, ce sont des UFA très souvent, ce sont les mêmes établissements, donc les mêmes plateaux et les mêmes profs. Donc quand ces élèves arrivent sur le marché du travail, eh bien forcément les employeurs comparent. Et puis les employeurs, comme le bac pro sous forme d'alternance est quand même quelque chose d'ancien, sur le génie civil, ils ont aussi la mémoire des anciens bac pro, ceux qui passaient par un BEP, etc., etc. Alors forcément, ils comparent tout ça et ils disent, le bac pro 3 ans, voilà.
Les bac pro 3 ans, c'est moins bien. Voilà. Cette particularité du métier gestuel par rapport à un élève de bac pro en secrétariat qui apprend un logiciel, par exemple, quand un jeune doit apprendre à enduire, à faire un enduit sur un mur, très souvent, en atelier, on voit l'enseignant qui prend la main, qui touche le jeune, qui prend la main, qui essaye de lui donner le geste du poignet. Alors qu'aujourd'hui, toucher quelqu'un, ça devient extrêmement compliqué pour un enseignant. Mais à un moment donné, face à une incapacité gestuelle, l'élève accepte que le prof le touche, lui prenne la main, lui implique un petit peu ce geste. Et il est vrai que dans une logique un petit peu domestique, quand c'était sur 4 ans, ça crée des liens entre un élève qui apprend, qui accepte d'être touché par son enseignant pour le faire progresser, par rapport parce qu'on est en génie civil, même pour un plombier, pour apprendre à tenir le chalumeau, la baguette pour braser, etc., pour plein de choses. Hein, voilà. Par rapport à un élève qui était en secrétariat, par exemple, qu'on n'a pas nécessité de le toucher, il est sur son clavier, voilà, il peut y avoir une certaine distance. Ce qui fait que certains, ça a pu créer soit des rapprochements, soit au contraire, j'en parlais tout à l'heure, un peu de l'éloignement, parce que pour certains élèves, quand ils avaient fait 6 ans, ils en avaient ras-le-bol, quoi, les mêmes profs. Donc il y a toujours ces deux postures, des élèves pour qui ça a été une aide, d'avoir un lieu connu, d'être reconnu, de passer du temps, et pour d'autres, ou au contraire, une certaine saturation de voir les mêmes têtes. Hein. Donc il n'y a pas de vérité, c'est plutôt des postures plutôt personnelles d'équipe. Donc ces élèves-là aussi, par rapport, comme ils sont plus jeunes, il y a toute la réglementation qui est issue du monde du travail, qui va dire qu'on ne peut pas être sur une machine-outil à moins de 17 ans, 18 ans, etc. Donc on voit des choses, il pourrait y avoir à un moment donné une appétence à apprendre, et on est bloqué parce qu'on ne peut pas utiliser la machine. Et ça se voit, parce que quand ils rentrent en première année bac pro, ils voient bien des élèves qui ont 18 ans ou plus, qui utilisent des machines, et eux, ils sont avec leur Siegwin, par exemple, en menuiserie, et ils aimeraient passer à la machine. Voilà.
Alors là, je crois qu'on peut en dire un tout petit mot par rapport à la dérogation sur machines dangereuses, puisque le texte, les nouveaux textes sont arrivés, c'est des arrêtés qui doivent dater du mois d'octobre, je crois, octobre 2013, qui sont faits pour simplifier les choses, mais là je peux vous dire qu'en ce moment on travaille les textes paraissent plus simples, mais maintenant il va falloir mettre tout ça en musique, et là c'est pas simple. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que en deçà de 15 ans, il n'y a pas de dérogation possible. Donc ça c'est clair, net et précis, il n'y a pas de dérogation possible. Entre 15 et 18 ans, il y a des dérogations à la condition que le jeune soit sur une formation diplômante. C'est pour ça que les élèves qui sont en SECPA, par exemple, ressortent complètement, et là, il n'y a pas de dérogation. Alors, le processus est assez compliqué, parce que effectivement, au niveau des établissements, alors ça a changé, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut faire une demande, il faut lister les matériels, mais aussi les situations dangereuses que le jeune va rencontrer dans l'établissement. Donc ça, effectivement, il faut que ce soit en lien direct avec le référentiel. Donc ça, c'est dans l'établissement, on gère un peu, mais il y a la même chose au niveau des entreprises. Et comme on voit qu'il y a deux pôles de formation, puisqu'on parle de période de formation en milieu professionnel, et il y a bien le mot formation, ça veut dire que la formation, elle est éclatée entre l'école et l'entreprise. Donc on a cette dérogation qui joue aussi sur les entreprises, et on a une période de latence de 2 mois quand l'entreprise fait une demande de dérogation auprès de la directe. Alors vous voyez ce que ça peut donner. Je crois qu'il doit y avoir quand même pas mal d'enseignants dans la salle qui sont sûrement impactés par les PFMP. Quand le jeune traîne, et que vous n'arrivez pas à trouver de lieu d'accueil non plus, ça veut dire que si le jeune le trouve la veille, normalement, vous pouvez pas. C'est pas possible, puisqu'il va aller en entreprise alors que la dérogation sera pas faite. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, 90% des entreprises doivent être dans l'illégalité. Donc vous voyez que ça pose un problème par rapport au fait d'être jeune. Voilà.
Donc, des élèves moins matures, dont c'est ce que vient de dire Bernard Grimaud, plus de difficultés d'adaptation en entreprise, et puis aussi, bien sûr, moins de connaissances professionnelles, parce que ces jeunes, dans l'ancienne version, quand ils faisaient un bac pro 4 ans, la plupart d'entre eux pouvaient être issus d'un BEP ou d'un CAP, et continuaient donc sur cette formation, et donc ils avaient un bagage technique, un bagage gestuel qui avait pu être en partie acquis. Et le fait que ces élèves arrivent directement de 3e, ils sont sur des logiques du collège, et ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que le monde du génie civil est un monde qui fait peur, que ce soit que ce soit en bac professionnel comme en master. On arrive sur un chantier, il y a des machines, ça gueule, ça fait du bruit, il y a du danger partout. C'est pas la même chose que lorsqu'on arrive dans un open space avec son ordinateur.
Je crois que c'est important parce que quand vous êtes en maintenance des matériels, par exemple. Hein. Maintenance des matériels, en général, le jeune, et surtout si c'est du véhicule industriel ou du véhicule particulier, le jeune, il arrive dans un garage, il reste dans son garage. Donc, il est bien.
Confiné à un espace.
Voilà, il est confiné à un espace. Quand il est en génie civil, il est jamais à l'atelier, hein. Il est toujours sur le chantier. Et en plus, le chantier, alors très souvent, il zappe d'un chantier à un autre, hein, ça aussi.
C'est un métier nomade.
C'est un métier nomade. Et puis, surtout, c'est un métier, même quand vous êtes, sédentaire à un moment donné sur un chantier, il est toujours en évolution. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes au niveau de la sécurité. Ça veut dire que le jeune, il faut qu'il s'adapte toujours, ça change tous les jours sur un chantier. Et en plus, il y a des intervenants différents tous les jours. Très souvent, il n'a pas le même tuteur ou maître de stage, hein, puisqu'on va l'envoyer sur une activité, sur un chantier, etc. Alors, il aura une personne qui, très souvent, va être son tuteur ou son maître de stage, qui va faire la liaison avec l'école, mais très souvent, il est administratif, hein, c'est-à-dire que c'est jamais celui qu'il a sur le chantier.
C'est pas tuteur.
Donc, tout ça pose énormément de problèmes, et ça, c'est très spécifique au génie civil.
Voilà. Donc là, ça reste plus logique, le regard des maîtres de stage en entreprise sur ce nouveau public et sur les contenus. Donc le monde du génie civil, on vient d'en parler un tout petit peu. Alors, ce qui peut apporter l'attention dans le passage du bac pro 4 ans au bac pro 3 ans, c'est que les organismes professionnels de la filière n'ont pas été consulté.
Oui, alors.
Plus ou moins.
Hein, voilà. Moi, je te laisse parler. Oui, là aussi, le gros problème, alors on le rencontre sûrement dans d'autres, sur d'autres filières, mais c'est peut-être moins prégnant. Traditionnellement, le génie civil et les professionnels intervenant dans le génie civil sont proches de l'apprentissage. L'apprentissage, quand je parle apprentissage, c'est toutes les voies confondues. Hein.
C'est un peu comme le métier de la bouche. Hein,
voilà. N'oublions pas quand même que les premiers lycées professionnels, entre parenthèses, ou les premiers centres d'apprentissage, c'est l'école du trait. Hein. Finalement, c'est la construction des cathédrales. Hein. C'est là que sont nées les premières formations. Hein. Donc ça veut dire que le bâtiment est quand même précurseur dans toute la formation professionnelle. Et là, en 2007... pendant les vacances de novembre 2007, sont parus les textes sur le bac pro 3 ans. Nous-mêmes, on a été assez surpris. Hein. Je peux vous dire qu'au niveau des corps d'inspection, on n'était pas du tout au courant. Donc, bien sûr, ça se baladait c'était dans l'air, mais bon, voilà, c'est arrivé. Nous, on est fonctionnaires, donc comme je dis d'habitude, on est fonctionnaires, donc on fonctionne, hein, ça pose pas de problème. Hein. Mais au niveau des branches professionnelles, là, je peux vous dire qu'ils l'ont eu en travers de la gorge. Parce que ils ont vraiment eu l'impression qu'on leur a imposé le bac pour 3 ans. On leur a imposé. Il n'y a pas de micro là. On leur a imposé le bac pour 3 ans sans qu'ils aient vraiment été concertés. Et ça, ils l'ont eu assez mauvaise. D'autant plus que au niveau des référentiels, je pense que vous allez en parler dans la suite des interventions. Donc, vous savez en gros comment ça fonctionne. Hein, vous avez des commissions professionnelles consultatives qui sont réparties en différentes commissions, différents groupes de travail, et donc c'est ces commissions qui écrivent les référentiels. Il faut savoir qu'un référentiel professionnel, la première partie, c'est le référentiel donc des activités professionnelles. Il est écrit par les professionnels. Donc ça vient toujours des branches professionnelles. Il y a une activité qui existe ou qui naît, il n'y a pas de référentiel, c'est la profession qui va demander au CPC concerné de travailler sur l'élaboration d'un référentiel. Il y a une activité qui n'existe plus, elle demande l'abrogation. Et il y a une activité qui évolue, c'est le cas de toutes les activités, et on revoit les référentiels qui, on peut dire, que mis à part quelques collecteurs chez nous, parce qu'on a quand même des collecteurs, ils sont revus à peu près tous les 10 ans, en gros. Hein. Voilà. Et puis après, derrière, les professionnels, une fois qu'ils ont travaillé, alors bien sûr, on les accompagne. Nous, après, derrière, on passe. C'est-à-dire que derrière, ben, pour effectuer ces activités professionnelles, il faut effectivement lister des compétences, etc. Ça, c'est notre boulot. On le fait avec eux, mais ça, c'est notre travail. Après, on écrit les règlements d'examen, etc. Alors déjà, on a déjà un problème par rapport au référentiel. Très souvent, dans le génie civil, c'est que il y a des représentants de la profession, mais pour les professionnels, le petit artisan de la CAPEB, enfin la CAPEB c'est syndicat donc des petites entreprises. Et la FFB c'est plutôt les grosses entreprises. Bon, eux ils ont l'impression que c'est des gens qui sont à Paris et qu'ils font pas partie de leur monde quoi. Alors déjà il y a ce problème là entre les référentiels tels qu'ils sont écrits et parce que le professionnel du secteur, enfin de base, lui a l'impression que en définitive le référentiel il est un peu déconnecté de ses propres propres réalités. Mmh. Et en plus là, on leur impose un bac pour 3 ans. Alors là, là il y a eu une incompréhension. Et toute la difficulté maintenant, elle est là. C'est-à-dire que quand on va vers les branches professionnelles, casse-pied, quoi, en parlant trivialement, à chaque fois, ils nous remettent ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des difficultés par rapport au bac pro 3 ans qu'on va aborder, mais on peut pas avancer parce que à chaque fois, on nous dit, ah, mais oui, mais nous, on nous a pas concertés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un problème par rapport aux professionnels.
Donc, puis le fait du jeunisme, hein, de ces élèves qui arrivent, par rapport à des gestes professionnels qui ne sont pas maîtrisés, par rapport à la rémunération qui s'inscrit dans un cadre juridique, institutionnel, hein, ce qui fait qu'il peut y avoir, pour certains professionnels, une préférence pour l'élève qui vient en apprentissage, qui passe son CAP et qui vient à la suite passer un brevet professionnel qui n'est pas... c'est un diplôme qu'on ne retrouve pas dans l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est le bac professionnel. Le brevet professionnel, si je ne me trompe pas, c'est les chambres
d'artisanat. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, sur la partie génie civil, mais ça on le retrouve sur toutes les filières, hein, vous avez au niveau 4 le BP et le bac pro. Un bac pro, c'est quelque chose qui aborde plutôt un ensemble de secteurs, alors que le BP est très dirigé sur un métier. Voilà. Sur les indices de salaire, c'est les mêmes. Hein. Je veux dire que vous ayez un BP ou vous ayez un bac pro, vous êtes de niveau 4, ça correspond. Bon, alors il est évident que quand l'entreprise voit arriver un BP maçon qui a fait 2 années de CAP, 2 années de BP, donc déjà 4 ans, sur le secteur de la maçonnerie, en général dans sa propre entreprise, comprenez que le gamin, il est efficace, il produit, et là, il maîtrise tout, quoi. Donc, ça va très bien. Quand il voit arriver un bac pro 3 ans, qui, lui, sort de 3e, et sur, non pas un maçon, mais à aborder le domaine du gros œuvre, en plus, qui a fait que 22 semaines, même si c'est énorme, que 22 semaines d'entreprise, qui va devoir le payer comme le BP, et qu'en plus, il n'a pas été à l'origine du bac pro 3 ans. Vous voyez toute la difficulté que ça peut représenter pour l'insertion de ces jeunes. Alors maintenant, ce qu'il faut parler, c'est au niveau des enseignants, parce que c'est les enseignants. Le problème des enseignants, c'est qu'ils vont devoir se colter à ça. C'est-à-dire que, je pense que tout le monde doit à peu près avoir l'idée du bac pro 3 ans. Le bac pro 3 ans, c'est 22 semaines en entreprise. Et c'est 22 semaines en entreprise avec une répartition, normalement, des enseignements entre... Et là, on reviendra là-dessus, parce que ça pose... je ne sais pas si on voit très bien. Hein. Oui, on le voit. Sur le bac pro, 60... alors, les PFMP représentent en gros 36% du temps de formation. 36%, c'est plus d'un tiers. Hein. Donc, ça veut dire qu'un tiers du temps de formation est dévolu à l'entreprise. Si vous avez du mal à trouver une entreprise d'accueil, ça veut dire que ça met en péril la formation. Ça met en péril la formation. Alors, trouver une entreprise d'accueil, c'est déjà un bon point. Mais trouver une entreprise d'accueil qui, effectivement, joue le jeu de la formation,
C'est encore autre chose.
C'est encore autre chose. Vous voyez ? Donc, ça met quand même en difficulté, ça met profondément en difficulté les enseignants. Ça veut dire que... Et alors, il y a une chose aussi qu'on n'a pas précisé quand on a parlé des référentiels. Les référentiels n'ont pas changé. C'est les mêmes.
Le bac est le même.
Ah ben, le contenu est exactement le même. Alors, on a changé l'arrêté au départ qui fixait à 15 semaines ou 16 semaines. Mmh. On est passé à 22. Ah, et voilà. Mais en réalité, le référentiel de formation est le même. Alors, les enseignants, c'est là où il y a eu un gros problème. Ils se sont dit, mais attends, on avait écrit notre parcours de formation sur 2 ans, en s'appuyant déjà sur des acquis du BEP. Et puis maintenant, il faut qu'on fasse la même chose, mais il y a un an de moins, quoi. Je veux dire, le calcul, il est vite fait, quoi. Et puis ça, je crois qu'on peut pas dire le contraire. Il y a vraiment un an de moins. Il y a du temps ou en heures, il y a des heures de formation en moins. Donc il faut vraiment qu'on fasse autre chose. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on s'appuie complètement sur l'entreprise. Ça veut dire que quand on écrit un parcours de formation, il faut vraiment partir du référentiel des activités professionnelles, c'est-à-dire qu'est-ce que doit être capable de faire, ce que le jeune doit être capable de faire à l'issue de sa formation, et de lister toutes les compétences qui lui permettent d'arriver à ça, quoi. Et il faut maintenant le faire rentrer dans 3 ans, au lieu, en gros, de le faire rentrer dans 4 ans, quoi. Hein. Est-ce que je suis clair?
Avec des logiques locales d'entreprise qui font que cette entreprise, par exemple, elle fait telle tâche, ben, et ça ne représente pas l'intégralité du référentiel.
Oui, c'est ça.
L'élève va faire son stage. Pendant ce temps-là, ben, je sais pas, il a fait 6 semaines. Pendant 6 semaines, il a posé que du pavé autobloquant parce qu'il avait que ça à faire. Il est tombé chez un artisan, ils étaient 2. Ils ont eu un gros marché, ils ont fait que du pavé autobloquant. Il n'a pas de montée de mur en aglo, coulé du béton, etc. Ouais. Donc derrière, les enseignants, ça leur remet une charge supplémentaire par la diversité, un, des individus, la diversité des apprentissages de là où ils en sont, et la diversité des lieux d'accueil de stage, qui fait que à un moment donné, ben, un tel, il est vraiment dans le référentiel, et puis un autre l'est pas du tout, hein, parce qu'il a pas pu valider plein de choses, voilà,
hein. Donc ce parcours de formation, c'est quelque chose que les enseignants ont dû réécrire. Et le problème de l'enseignant, on en parlait tout à l'heure, le problème de l'enseignement professionnel, de l'enseignant professionnel, c'est qu'il a du mal à lâcher des choses. Bon, le collègue qui est de génie civil construction, réalisation d'ouvrage, hein, donc maçon, si on peut dire, on va parler métier, maçon, bon, bah, il a l'habitude de faire des choses avec ses élèves. Et normalement, avec la nouvelle répartition du bac pro 3 ans, il faudra effectivement qu'il s'appuie tout le temps sur les périodes de formation d'entreprise. C'est-à-dire qu'il va préparer le jeune à aller en entreprise. Il faut qu'il essaie d'anticiper les activités que le jeune va faire en entreprise pour pouvoir le préparer à ça. Bon, en gros, le jeune maçon, il va partir pour une première fois en entreprise. Il va en général préparer du mortier, monter des aglos, etc. Bon, ça veut dire que comme c'est un métier gestuel, il va falloir quand même le préparer un peu à ses gestes, hein. Bon, mais ce qui se passe, c'est que au lieu de laisser après, une fois l'apprentissage fait, au lieu de laisser l'application, la mise en œuvre à l'entreprise, bah, il a tendance à en rajouter parce qu'il aime ça, parce que voilà, et puis et tout ça, ça fait que quand il a au bout de 3 ans, bah, il lui manque du temps, quoi. Ah, et ça c'est très 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 compliqué. Alors comme disait Dominique, le problème c'est qu'effectivement s'il trouve pas l'application en entreprise, ça c'est d'autant plus compliqué. Alors ça veut dire que quelquefois l'enseignant est obligé de faire des choix. C'est-à-dire qu'il peut pas faire toutes les activités professionnelles. Donc il faut qu'il soit capable de dire j'ai telle activité professionnelle à réaliser, mais est-ce que le jeune sur d'autres activités ne peut pas développer les compétences. Je vais parler technique. Vous avez ici un plafond acoustique. C'est dans le référentiel de l'aménagement finition. Mais la plupart, 90% des jeunes ne l'offront jamais dans leur formation. Or, si on regarde, toutes les compétences nécessaires pour poser ce plafond, on peut le faire sur d'autres activités qui sont du sol, qui sont, de la pose de plaque, enfin voilà. Ça veut dire que l'enseignant, il va falloir qu'il travaille vraiment en compétences plus qu'en activité.
Et pour prouver ce plafond, voilà. Le jeune, il ne peut pas monter sur l'échafaudage.
Oui, ça c'est un autre point.
Donc, au lieu de faire du plafond, il va faire du sol.
Voilà, non mais si tu en rajoutes.
Il
n'y
a pas de danger, il posera la moquette.
Voilà.
Voilà.
Ouais, non, non, mais c'est.
Dans ces paradoxes, non, mais, dans ces
voilà, on est dans ces paradoxes. C'est vrai qu'après, il faut. Bon, ouais. Donc, ça devient très très compliqué. Pour les, c'est beaucoup plus compliqué pour un prof du domaine professionnel, en gros, que pour un prof du domaine général, où il est, enfin,
il a d'autres problèmes.
Je veux dire, il a d'autres problèmes, sûrement, mais il a quand même un programme qui, enfin, il a d'autres problèmes, quoi, c'est pas les mêmes, quoi. Le problème du, et franchement, c'est une angoisse pour le prof du domaine de spécialité, c'est qu'il a toujours l'impression qu'il va jamais y arriver, et que le jeune va être, tout de suite, enfin, je veux dire, dévalorisé quand il va arriver sur le chantier parce qu'il a peur qu'on lui demande de faire quelque chose qu'il n'a pas vu, quoi. Et là, c'est directement, enfin, dans les domaines généraux, on n'a pas vu une petite partie du programme, quand le jeune va arriver en entreprise, ça va pas forcément être dommageable tout de suite. Ça peut être dommageable, bon, mais pas forcément tout de suite. N'empêche que si le jeune n'a jamais posé d'agglo et qu'il arrive chez un maçon, là, ça va être dommageable tout de suite. Vous voyez, et le prof, il a peur de ça, hein, parce qu'il veut absolument que son jeune réussisse, quoi.
Mais quand on en revient un tout petit peu du côté de l'élève, bon, ce sont des élèves où le métier de la filière dans le génie civil, ça implique le corps de façon très... ça nécessite un engagement, hein. Je soulève un sac de ciment, je porte des choses, etc. Ces élèves sont des adolescents, donc ils quittent un corps d'enfant pour aller vers autre chose. Donc toute cette partie de danger, il y a une sorte d'inconscience par rapport au danger, il y a un échafaudage, ils n'ont pas fait la formation, ils sont dans une petite entreprise, ils sont trois, il y a un échafaudage à monter, le gamin il va monter. On est parfois un peu dans l'illégalité, je veux dire, sur plein de choses comme ça. Hein. Et donc c'est un lieu d'apprentissage pour, d'un point de vue physique, pour ces enfants, ces adolescents, et avec la confrontation dans le monde professionnel du bâtiment, passez-moi l'expression, mais les gens, dans leur tête, c'est on n'est pas des tafiotes, on y va. Quoi. Donc tout ce côté d'engagement, de porter des choses, etc., c'est quelque chose qui est très prégnant. Chez un peintre, tous les produits nocifs qui peuvent exister, à base de néoprène, de plein de choses, c'est marqué sur les bidons, etc., c'est pas forcément pris en compte par le jeune. Donc l'enseignant, il, quelque part, malgré lui... Au regard de ce qu'il connaît du monde de l'entreprise, il est obligé aussi de donner beaucoup plus d'importance, par exemple, au danger à monter sur un échafaudage. Quelle précaution l'enfant, l'adolescent doit prendre. S'il donne plus de temps sur ces aspects de sécurité, pas sécuritaire, hein, de sécurité, il en donne moins sur les contenus. Et au bout d'un moment, ça peut aussi refluer sur lui sur « mais c'est quoi mon métier ?» Est-ce que, moi, je caricature un peu.
Non, mais ça, c'est tout à fait
voilà.
Prégnant.
Hein. C'est quoi ce mon métier voit, Mon métier, c'est apprendre au danger de l'échafaudage. Si je suis peintre, à regarder ce qu'il y a sur le bidon. Si je suis maçon, de ne pas tomber dans une trémie. Mais en fin de compte, je passe plus du temps à monter des agglos ou à couler du béton. Parce que je sais qu'en entreprise, ces aspects ne sont pas développés. Voilà. Donc, c'est aussi... excusez-moi. Voilà. Donc... Non, c'est pas ça, on va un peu plus loin. Voilà. Donc c'est un métier gestuel, et contrairement à la filière du tertiaire ou de la mécanique, hein, comme on disait tout à l'heure, le contexte fait qu'il est effectivement moins dangereux. Hein. Quel risque on a avec un ordinateur, peut-être ramasser l'électricité si on le branche, hein, mais l'ordinateur va rien faire de particulier. Alors que le génie civil, on est sans arrêt dans un monde très agressif, avec... Pour les professionnels qui évoluent dans ce métier-là, une sorte de, je sais pas moi, une sorte de déni entre guillemets, hein, du danger qui est là permanent, quotidien, etc. Hein. C'est quand même un monde, et puis en plus avec tout le monde le sait que c'est un monde où il y a beaucoup de travail au noir, où il y a beaucoup de main d'œuvre non déclarée, etc., etc. Donc le jeune il baigne aussi un peu là-dedans. On lui donne des aspects de sécurité, et puis sur le chantier, dans la réalité, on s'aperçoit que, la vie, machin truc.
Bon, je veux quand même même défendre un peu la filière. Bon, c'est de moins en moins vrai quand même. Bon, c'est vrai que depuis quelques années, au niveau de la sécurité, il y a eu un gros travail de fait au niveau de l'environnement aussi, hein, parce que maintenant c'est tout ce contexte réglementaire qui fait que. Alors, je reviens toujours sur l'enseignant parce que moi, je suis plus avec les élèves maintenant. Je suis surtout avec les enseignants. Et c'est vrai que bon, je me rends compte qu'ils souffrent par rapport à ça, parce qu'ils ont plus l'impression de faire leur métier, quoi. Ils sont, enfin, un peu leur métier
de base,
quoi. Mmh. Hein, et ils ont plus l'impression tout à fait de faire leur métier d'enseignant, quoi, parce que pour eux, ils sont enseignants d'une spécialité. Or, finalement, de plus en plus, ils vont devoir faire autre chose liée à la spécialité, mais qui n'est pas cette spécialité de base. Et ils vont devoir laisser une partie du geste à l'entreprise. Et ça, c'est assez difficile à organiser pour eux.
C'est exactement ce qu'il y a sur le diapo derrière. Voilà. Moins de temps pour dispenser les contenus. Quand vous rajoutez en plus les réunions, les conseils de classe, tout ce qui va graviter autour dans un, ces enseignants du monde professionnel, parfois sont un peu questionnants sur la réalité de leur métier, du geste qu'ils doivent transmettre. Donc ça, on l'a vu. Ouais, et puis bon, le diaporama il vous sera laissé, hein, donc tous les sigles, vous allez les retrouver. Hein. C'est une spécialité de l'éducation nationale d'avoir plein de sigles, d'acronymes, etc. Donc on n'est pas toujours
D'ailleurs, c'est
pas PFMT. C'est un P, c'est pas un T. Mais je vais échanger, mais pas tous. Voilà. Donc la période d'information milieu du monde du travail, professionnel. Qui est à la charge des enseignants, puisque les enseignants maintenant sont tuteurs d'un élève ou de plusieurs élèves. Et je voyais bien moi aussi quand j'enseignais dans les UFA, par la diversité des lieux d'accueil en entreprise, la première semaine quand ils revenaient, les vécus pouvaient être complètement différents pour ces élèves qui étaient vraiment dans l'apprentissage, alors que le contenu du diplôme sont identiques pour tous. Hein. Donc l'enseignant, ça surajoute à la complexité de son métier.
Ça c'est un gros problème, et c'est pas particulier au génie civil, mais étant donné qu'on a des diplômes, enfin des formations qui sont foisonnantes, prenez l'exemple du bac pro aménagement finition, le gamin, il faut qu'il fasse de la peinture, du plafond acoustique, du carrelage, du revêtement de sol, des cloisons, enfin, faut dire, il a tout ça à voir, hein. Donc c'est énorme. Ça veut dire que quand vous avez un jeune qui part en entreprise, il peut très bien faire de la peinture, du carrelage, etc. Alors vous avez beau dire à une entreprise, il serait souhaitable que, parce qu'il faut toujours utiliser le conditionnel, il serait souhaitable que, n'empêche que l'entreprise, si elle a que de la plaque à faire, elle va pas faire de la peinture, hein. Et quand le jeune, lui, revient, l'enseignant, il a aussi sa logique, enfin son parcours de formation. Et il va avoir des jeunes qui vont avoir fait des choses complètement diverses en entreprise. Donc il va falloir que là-dessus, et puis alors vous avez des jeunes qui entre parenthèses fonctionnent bien, des jeunes qui fonctionnent moins bien, etc. Ça c'est très rapidement, et l'enseignant qui a beaucoup de mal. Alors là, bon, je connais pas les autres filières, mais je sais que j'en ai une autre, c'est la conduite routière, où effectivement ça va beaucoup mieux. Mais en génie civil, l'individualisation, les enseignants ont beaucoup de mal à individualiser l'enseignement. Alors j'ai quelques collègues qui le font, notamment si ça vous intéresse, à Tony Garnier, il y a un collègue en carrelage qui fait un gros travail là-dessus. En deuxième année de CAP, il n'y a aucun gamin qui fait la même activité. Hein, et il s'appuie vraiment sur ce qui a été fait en entreprise, il est complémentaire de l'entreprise. Il fait rien, enfin je veux dire, et il travaille de plus en plus par compétences. Il abandonne la note, ça devrait y avoir disparu depuis très longtemps, c'est hélas toujours là, et il essaie de travailler plus par compétence que par note, ce qui fait qu'effectivement on peut aborder des activités complètement différentes et développer des compétences similaires, quoi, faut dire, hein. Donc et là il faut rentrer là-dessus, alors ça demande du boulot quand même, hein. Mais et là-dessus c'est très intéressant, parce que effectivement il a, étant donné que les gamins ont l'impression d'être toujours en chantier, d'être toujours à des choses nouvelles, ils voient plein de choses qui bougent, enfin, voilà, ils sont pas en randonnion, si vous préférez, hein, comme on le voit quelquefois dans certains ateliers, ils font vraiment des choses spécifiques. Il essaie toujours également toujours en développant les mêmes compétences, de ne pas mettre le même niveau d'exigence selon le jeune. Hein, donc ça veut dire que le jeune, il réussit tout le temps, quoi, en définitive. Hein, et parce qu'on lui dit, bon, ben, tu vas pas sauter comme tout le monde 2m10. Si tu veux pas sauter 2m10, ben, ma foi, tu vas sauter juste un peu en dessous. On verra. Donc, voilà. Et ça, c'est l'individualisation. Or, vous vous rendez compte? Des choses différentes en entreprise, des gamins qui ont des niveaux différents et...
La gestion de classe.
La gestion de classe, etc. Donc c'est quand même assez compliqué. Alors on retrouve ça sûrement dans d'autres, enfin sur d'autres filières. Hein. Mais je pense, pour avoir vu beaucoup de filières, que le génie civil là-dessus est quand même assez assez symptomatique.
Ah oui, ce que vous avez là, c'est bon, le certificat d'aptitude à conduire en sécurité, la formation sauveteur secouriste du travail, la formation à la prévention des risques, l'activité professionnelle, l'enseignement général lié à la spécialité, la prévention santé environnement, etc.
Oh, pas, il y en a. Hein.
Encore. Et là-dedans, mon contenu, il est où, hein? On n'est pas en train de faire l'apologie du professeur d'enseignement professionnel. On est simplement en train de balayer, comme pour un professeur d'enseignement général, la complexité du métier, avec un aspect local qui peut être aussi très important. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour.
Et surtout pour empêcher les gens de souffrir. Voilà. Parce que moi, si j'ai accepté de venir aussi aujourd'hui, c'est parce que pour moi, c'est un aspect très important. À l'heure actuelle, on a des enseignants qui souffrent sur le terrain.
Tout de suite. Hein,
et ils souffrent pas forcément parce que les élèves sont. Alors on a trop tendance à dire les enseignants souffrent parce que les élèves sont difficiles. C'est vrai, hein. Bon, on n'a pas toujours des élèves faciles, mais ils souffrent aussi parce que le métier a changé, quoi, et que eux souvent n'ont pas changé, et c'est pas forcément de leur faute, c'est aussi de la faute des corps d'inspection qui font pas leur boulot. Non, je veux dire que c'est pour nous aussi, le boulot a changé, hein. Donc le boulot a changé partout. À l'heure actuelle, un inspecteur, il inspecte très peu, quoi. Mmh. Il est plus souvent en réunion, il fait plein de choses à côté, mais il inspecte très peu. Or, hier j'étais dans un établissement, j'ai passé une journée avec deux enseignants où on a vraiment, et on a dit plein de choses. Et le soir, ils sont partis avec le sourire. Ça fait plaisir, quoi. Mais c'est pas tous les jours que je passe des journées comme ça, quoi. Et là, les enseignants, ce qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un qui est pas venu, parce que je viens jamais avec cet esprit-là, leur délivrer la bonne parole. Hein. Je leur dis, voilà, quels sont les problèmes que vous rencontrez, on discute, etc. Bah, essayez ça. J'ai vu ça dans un établissement, ça a fonctionné. On travaille beaucoup sur l'évaluation par compétences, essayer de travailler sur l'individualisation, l'évaluation par compétences, en ce moment, beaucoup. Sans vouloir supprimer la note, puisqu'elle reste encore, elle est toujours là. Non, mais comment on peut marier les deux, etc. Voilà. Et puis, les enseignants, souvent sont satisfaits parce qu'on leur donne des pistes pour moins souffrir, quoi, hein, pour essayer que ça fonctionne mieux.
Juste, dans le monde du travail, du bâtiment, par exemple, les métiers changent. Avant, un maçon, il y a le fait, les artisans disent on est la plus grosse entreprise de France,
hein,
ce qui est vrai, hein, par rapport aux quatre grands majors. Mais dans le métier, par exemple, un maçon montait des agglos, faisait des enduits. Aujourd'hui, pour une raison de rentabilité, il y a un nouveau métier qui s'est créé, qui est le façadier, donc des gens qui font que de la façade, où les gens ne réfléchissent plus, où ils sont simplement opérateurs.
Ah oui,
c'est tout. Quand on prend le métier de la finition, il y a des gens qui posent de la plaque et des gens qui font les joints. Donc imaginez que l'entreprise, le gamin il se retrouve à faire des joints toute la journée, il posera jamais du carrelage, jamais des faux plafonds, etc. Donc ça peut avoir des effets facilitants, mais au contraire aussi des empêchements à rester dans une filière, à rester dans un métier. Vous pouvez avoir un élève qui peut être motivé par un métier, et puis la réalité du contexte dans lequel il va évoluer en entreprise vient désagréger les représentations qu'il avait de ce métier. Voilà. Le débat est ouvert. Après, on se prendra un petit temps pour l'enseignement général.
Oui. Hein. Bon, pour l'instant, on va échanger sur cette première intervention. Je vous remercie.